Vous écoutez France Culture.
Le sommet annuel de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui pour deux jours à Bruxelles dans un climat de nervosité et d'incertitude alimenté par les critiques répétées de Donald Trump contre ses alliés de l'Alliance Atlantique. Nous serons en ligne dès le début de ce journal avec Quentin Dickinson. L'épilogue d'un procès qui aura tenu tout un pays en haleine en Allemagne. La dernière survivante d'un groupuscule néo-nazi a été condamnée aujourd'hui à la réclusion à perpétuité. Un procès hors norme que nous racontera David Philippot à Berlin. Et puis en France, Emmanuel Macron, de plus en plus bousculé quand les partenaires sociaux tentent de montrer un front uni au chef de l'État. Les parlementaires donnent eux aussi de la voix. D'où cette question subsidiaire. Une victoire des Bleus au Mondial offrirait-elle un nouvel état de grâce à l'exécutif? Analyse dans ce journal de Stéphane Robert et Frédéric Seize. Enfin, à 12h45, la grande table d'été, bien sûr, au menu aujourd'hui, Maëlys.
Nous allons parler de Proust à l'occasion de la deuxième édition du festival Jeux de Vagues sur le thème Proust Musique. Musicoman, avant de faire le portrait de la chanteuse et comédienne Sandra Nkake.
Rendez-vous à 12h45. Un mois après la volte-face américaine au G7, c'est peu de dire que le sommet annuel de l'OTAN qui s'est ouvert ce matin à Bruxelles s'annonce tendu. Parmi les sujets qui fâchent, il faudra notamment s'accorder sur le financement des dépenses militaires de l'Alliance, car pour les États-Unis qui supportent près de 70% du fardeau, les Européens et le Canada ne dépensent pas assez pour leur propre défense. Alors, la position américaine a au moins le mérite de rappeler ce qu'est l'OTAN et en particulier cette question du donnant-donnant avec le Pentagone, sauf que l'attitude de Donald Trump a le don d'exaspérer aujourd'hui les Européens. Car bien loin de l'image du cow-boy romantique que pouvait incarner un lointain prédécesseur, le président américain leur apparaît davantage comme une sorte de parrain qui viendrait collecter son pizzo en échange de sa protection. Et c'est ainsi qu'hier, le président du Conseil européen lui-même, Donald Tusk, a invité le chef de la Maison-Blanche à, je cite, « mieux considérer ses alliés ambiance ». Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Et vous êtes à Bruxelles, le sommet n'a pas encore véritablement commencé, que déjà partout les commentaires les plus pessimistes circulent quant à son issue avec cette question existentielle. L'OTAN va-t-elle survivre à ce sommet? Alors tout cela est-il exagéré?
Exagéré sans doute, même s'il est vrai qu'on a connu ici des ambiances plus agréables. Personne d'ailleurs ne se fait d'illusions. Les véritables thèmes de ce sommet, vous en parliez, qui au regard de l'actualité revêtent un vrai caractère d'urgence, sont repoussés à l'arrière-plan, tant le tonitruant président des États-Unis a affirmé, avant même son arrivée ici, qu'il n'entendait s'exprimer que sur le seul sujet qui l'intéresse, c'est-à-dire l'accroissement de la part des Européens et des Canadiens dans le fardeau financier commun. Cela dit, l'existence de l'Alliance Atlantique n'est pas véritablement mise en péril par l'attitude de M. Trump, attitude pourtant sans précédent dans les annales diplomatiques. Contrairement au G7, réunion plutôt informelle, facilement déstabilisée par la brutalité simpliste de son propos, l'OTAN est une organisation solide, éprouvée, complexe et dont l'utilité n'est niée par aucun des alliés de Washington. M. Trump peut donc s'attendre à une résistance certaine de la part de ses 28 interlocuteurs.
Alors en imaginant que ce sommet de l'OTAN soit un échec comme celui du G7, quels seraient les risques et en particulier Quentin, un fiasco à Bruxelles ferait-il par exemple le jeu de Vladimir Poutine à quelques jours de la rencontre prévue entre le président russe et son homologue américain?
On peut le penser, car avant cette rencontre, lundi prochain à Helsinki, ici l'on tente d'évaluer les risques, car des risques, on en est convaincu, il y en a. Et l'inquiétude provient en premier lieu de ce que Vladimir Poutine, eh bien, paraisse plus tranquillement assuré que son interlocuteur américain, bavard et brouillon. Mais le risque évident, c'est qu'en Finlande, d'ailleurs ancienne possession de l'Empire russe, on ne puisse retenir, si peu de temps après le sommet ici, que Donald Trump accable ses alliés et encense ses adversaires. Ces deux jours de sommet atlantique devraient donc s'apparenter à un exercice de confinement de la zone sinistrée, bien plus qu'à l'actualisation prévue initialement des priorités stratégiques de l'Alliance.
Merci Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Autre dossier à même de nourrir les commentaires sur l'attitude acrimonieuse sinon belliqueuse de Donald Trump, celui de la guerre commerciale lancée contre Pékin. Hier soir, les États-Unis ont menacé d'imposer des taxes sur 200 milliards de dollars de nouveaux produits chinois. Évidemment, Pékin n'a pas tardé à réagir. Ce matin, le ministère du Commerce a jugé totalement inacceptable les nouvelles menaces de Washington et dénoncé le comportement irrationnel des États-Unis tout en avertissant qu'il serait forcé de prendre des mesures de représailles en cas de nouveaux droits de douane américains. et dans le contexte justement de cette guerre commerciale donc avec les États-Unis. Voilà un accord qui tombe à point nommé pour la Chine. Le leader mondial de la chimie, BASF, se dit prêt à investir 10 milliards de dollars pour la production d'un nouveau site de production dans la province du Guangdong. Pour l'heure, ce n'est qu'une déclaration d'intention non contraignante, mais si elle venait à se concrétiser, le groupe deviendrait l'un des premiers à profiter de l'assouplissement des règles chinoises en investissant seul, sans être obligé, autrement dit, de s'associer à un partenaire chinois. Une manière pour Pékin de redorer donc son image aux yeux des investisseurs étrangers. C'est une correspondance de Dominique André.
C'est un bras de fer, mais sans éclat de voix, bien loin des méthodes de Donald Trump. Depuis des années, l'Europe discute avec la Chine pour obtenir un meilleur accès au marché chinois. Le mauvais climat qui s'est installé entre les États-Unis et la Chine crée-t-il une opportunité pour les Européens ? Certainement, glisse une diplomate de l'Union européenne. La visite du Premier ministre Li Keqiang à Berlin a permis à des entreprises allemandes de signer une moisson de contrats qui s'élève à 20 milliards d'euros. BASF en fait partie, mais pas seulement. BMW et son partenaire chinois sont convenus de porter en 2019 leur capacité de production en Chine de BMW à 520 000 véhicules. L'accès au marché chinois a été discuté par Angela Merkel et Li Keqiang cette semaine et sera aussi l'un des sujets du prochain sommet sino-européen qui se tiendra à Pékin en début de semaine prochaine. La Chine assure qu'elle poursuivra l'ouverture de son marché aux investisseurs étrangers, qu'elle n'exige pas de transfert de technologie et qu'elle n'acceptait aucune violation des droits de propriété intellectuelle. C'est une plainte récurrente des entreprises étrangères présentes sur le sol chinois, qu'elles soient européennes ou américaines. La Chine va-t-elle changer de stratégie pour continuer d'attirer des entreprises comme le leader mondial de la chimie ? C'est un enjeu de taille pour le régime chinois qui a besoin de technologie et de savoir-faire pour poursuivre le développement du pays.
La fin d'un procès hors norme en Allemagne, le plus long depuis l'après-guerre. Après 5 ans de débat, la dernière survivante d'un groupuscule néo-nazi a été condamnée aujourd'hui à la réclusion à perpétuité pour sa participation à une dizaine de meurtres racistes entre les années 2000 et 2007. Une affaire hors norme, donc, qui avait profondément choqué le pays, en particulier David Philippot, parce qu'au-delà des crimes commis, ce procès aura mis en lumière non seulement les défaillances des services de renseignement intérieur, mais aussi le danger sous-estimé des réseaux d'extrême droite allemand.
La principale accusée est restée stoïque à l'énoncé du verdict comme si elle s'était préparée à la peine maximale. Beate Schäpe, 43 ans, était l'âme damnée des deux néo-nazis, surnommés ici les tueurs des kebabs, celle qui organisait la clandestinité, achetait les téléphones prépayés le jour des assassinats. Sa complicité a été retenue sous les applaudissements du public, une peine prononcée devant 50 journalistes et 50 spectateurs, dont certains ont passé la nuit devant le tribunal de Munich. Tous voulaient assister à ce moment historique d'un procès hors norme, 437 journées d'audience, pour tenter, sans y parvenir, de percer les secrets de cette odyssée meurtrière de 14 ans qui a jeté une lumière crue sur au mieux l'incompétence des services de renseignements intérieurs, au pire leur complicité passive dans cette vague d'assassinats. À la sortie de l'audience, les familles des 10 victimes ont exprimé à la fois leur soulagement de voir ce procès fleuve toucher à sa fin et leur colère que les principales questions du procès soient restées en suspens.
En Afghanistan, la ville de Jalalabad, déjà visée hier par un attentat suicide, a été ce matin le théâtre d'une nouvelle attaque perpétrée contre un bâtiment du département de l'éducation. Le premier bilan fait état d'au moins 10 morts. Et puis au Pakistan voisin, on savait que les menaces planaient sur le bon déroulement de la campagne pour les élections législatives prévues le 25 juillet prochain. Hier soir, au moins 13 personnes ont été tuées et 54 autres blessées à Peshawar dans un attentat suicide. La scène est assez rare pour être notée de mémoire de syndicalistes et d'entrepreneurs. C'est même la première fois que les partenaires sociaux arrivaient ainsi à prendre langue tous ensemble. Ce matin, les représentants de 8 organisations patronales et syndicales se sont réunis pendant un peu plus d'une heure et demie avec pour objectif de montrer un front uni au chef de l'État qui les recevra le 17 juillet prochain à l'Élysée. Alors, ont-ils réussi ? Mystère, aucune déclaration commune à la sortie de cette table ronde, pas même une photo pour marquer l'histoire. Tout juste a-t-on appris de quoi ils avaient bien pu discuter, c'est en tout les casques. Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière, a bien voulu concéder au micro de Catherine Pétillon.
On a évoqué la question de la sollicitation que nous allons avoir la semaine prochaine par le chef de l'État sur la renégociation ou la poursuite de la renégociation sur l'assurance chômage. On a évoqué la situation actuelle de ce qu'est aujourd'hui le paritarisme et de ce qu'il devient ou il devrait être demain avec un rôle de l'État de plus en plus fort. Et je pense que la réaffirmation du rôle des interlocuteurs sociaux patronaux et syndicats. Leur rôle en matière de contrepoids dans notre démocratie sociale, là-dessus, est un point totalement commun à l'ensemble de nos organisations. La preuve, sinon on ne serait pas réunis ensemble tous les 8 aujourd'hui. Voilà, on s'est vus, on a débattu et on va se revoir.
L'heure est-elle grave pour Emmanuel Macron, tandis que les partenaires sociaux, on vient de l'entendre, tentent de montrer un front uni au chef de l'État. Les parlementaires essaient eux aussi d'organiser la contestation. Hier, les députés ont entamé le débat sur la réforme des institutions avec l'examen du volet constitutionnel. Première étape d'une révision menée sous le feu nourri de l'opposition. Et puis, dernier avertissement en date ce matin, dans les colonnes du Parisien, le président du Sénat, au centre d'un fragile jeu d'équilibre, redit ses lignes rouges. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Tout en faisant mine d'ouvrir la porte, Gérard Larcher fixe ses exigences et il balise ainsi en quelque sorte l'espace possible de négociation.
Oui, ça fait plusieurs mois que Gérard Larcher se livre à un jeu subtil sur cette réforme des institutions. Et comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, c'est là la quatrième ou cinquième fois, il donne une grande interview, souvent dans un média de presse écrite, en l'occurrence ce matin le journal Le Parisien. Et comme pour les précédentes interviews, il s'agit pour le président du Sénat de s'adresser au président de la République par média interposé et donc de négocier. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette interview ? Déjà, il répond à Emmanuel Macron sur sa proposition hier d'ajouter, d'ajouter un amendement à la Constitution pour que le chef de l'État puisse rester au prochain congrès l'année prochaine, écouter les parlementaires et leur répondre. Alors ça modifierait tout l'équilibre de la Ve République, répond Gérard Larcher, parce qu'on reconnaîtrait dès lors un cumul des fonctions entre celles du président et du Premier ministre. Pour le dire autrement et dans un langage moins diplomatique, ce que dit Larcher, c'est « il n'en est pas question ». Il rappelle également plusieurs principes sur lesquels il n'entend pas céder. Le droit d'amendement des parlementaires, pas touche. Le département où il doit rester au minimum, selon lui, un député et un sénateur. Il s'oppose également au renouvellement en totalité du Sénat, comme le prévoit le président, en 2021. Il se dit donc prêt à négocier sur ces bases-là, sachant qu'il joue du fait qu'il est soutenu par une majorité composite au Sénat, où la droite reste majoritaire, certes, mais où il y a d'une part des sénateurs favorables à une franche opposition à Emmanuel Macron, d'autre part des élus beaucoup plus centristes et constructifs. Gérard Larcher sait qu'il tient là les deux bouts de la corde et que pour faire adopter sa réforme, Macron a besoin d'une majorité des 3/5 et donc du Sénat. Dès lors, il se place au centre du jeu et rappelle à travers cette interview à Emmanuel Macron que ça ne se fera pas sans lui.
Merci Stéphane Robert. Alors on le voit, Emmanuel Macron est aujourd'hui confronté à un été sans doute plus chaud que prévu, qu'il s'agisse de la versatilité de ses soutiens politiques à gauche comme à droite, mais aussi des sondages d'opinion qui semblent attester d'une baisse de popularité. Et dans ce contexte, une question se pose d'autant plus prégnante après la qualification hier soir de la France en finale de la Coupe du Monde. Et si une Coupe du Monde réussie pour les Bleus profitait à Emmanuel Macron ? Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Alors une victoire des Bleus au Mondial offrirait-elle à coup sur un nouvel état de grâce à l'exécutif?
Oui, c'est vrai que cette Coupe du Monde est scrutée de près par l'exécutif. Le président français était du reste dans les tribunes en Russie hier soir, scruté pour trois raisons. D'abord, parce que la réussite d'une telle compétition soude évidemment le peuple français, amoindrit les divisions. 22 millions de téléspectateurs hier soir devant la télévision, des scènes de liesse un peu partout. De tels matchs participent de l'unité nationale, a carrément dit hier soir très sérieusement François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs suspendu les débats parlementaires le temps de la demi-finale. Ensuite, il y a un effet économique attendu. Une Coupe du Monde gagnée, c'est bon pour la croissance, se réjouissait ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Un moral des ménages en hausse, c'est de l'épargne en moins et de la consommation en plus, même si bien sûr cela ne bouleverse pas non plus les grands équilibres annuels. Et puis, l'exécutif peut aussi trouver des raisons plus politiciennes de s'intéresser à l'événement. Chacun a en tête l'explosion de popularité du couple Chirac-Jospin en 1998. On a consulté, Thomas, les sondages de l'époque. En trois mois, Jacques Chirac avait progressé de 48 à 65% de popularité selon l'Institut CSA, à tel point que le très sérieux journal Le Monde titrait ainsi le 27 juillet 1998 « Le Mondial a aidé Jacques Chirac à retrouver sa popularité ». Il faut dire que le président d'alors avait donné de sa personne en revêtant le maillot de l'équipe de France, en scandant le nom des joueurs dans le stade, avec d'ailleurs autant d'imprécision que d'enthousiasme. Mauvaise nouvelle en revanche pour l'exécutif, ça ne dure pas. 18 mois après, Jacques Chirac avait retrouvé son niveau d'avant la Coupe du Monde. Et encore, il était un président de cohabitation, seul en son palais, qui n'avait pas assumé les décisions impopulaires du gouvernement Jospin. Ce ne sera pas le cas pour Emmanuel Macron.
Merci Frédéric Seyss. Et puis on en profitera pour préciser donc que les Bleus connaîtront ce soir leur adversaire pour la finale dimanche prochain. Ce sera après le match Croatie Angleterre. Le bureau de l'Assemblée nationale a voté ce matin à l'unanimité la levée de l'immunité parlementaire de Thierry Soler, ainsi que le souhaitait lui-même le député LREM, soupçonné de fraude fiscale, pour pouvoir donc être entendu par la justice. On termine ce journal avec un mot du temps pour aujourd'hui. Quelques passages nuageux au nord, du soleil au sud. Les températures, elles sont comprises cet après-midi entre 21 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Yacine Bouzard. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.